Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un long moment que je n'ai pas eu l'occasion de venir vous rencontrer ici à Montreuil, mais je suis votre voisin depuis le siècle dernier. Et depuis presque 35 ans, je suis avec intérêt ce qui se passe dans l'église à Montreuil. Mes quatre enfants sont nés à l'hôpital intercommunal. Alors vous voyez que j'appartiens presque à la ville de Montreuil. Avez-vous remarqué combien grand est l'amour de Jésus pour l'Église? Nous lisons dans la lettre de Paul aux Éphésiens que Jésus a donné sa vie pour l'Église. Et dans l'évangile selon Matthieu, il dit « Je vais bâtir mon Église ». Depuis près de 1800 ans, Jésus bâtit son Église ici en région parisienne. Avec des temps d'avancée spectaculaires et de revers douloureux. Il y a bientôt 35 ans, un chantier a été ouvert ici, à Montreuil. Quels sont les projets de Dieu pour vous au XXIe siècle? Je suis un passionné de l'Église. J'aime visiter, j'aime connaître, j'aime étudier les Églises. Quel regard portez-vous sur l'Église? Aimez-vous l'Église ou y venez-vous par outil ou par devoir? Comme Jésus, êtes-vous animé d'une passion pour l'Église? Alors, quelle est votre Église préférée du Nouveau Testament? Jérusalem, avec sa belle solidarité qui se pratiquait entre chrétiens, ou Corinthe, l'église où il y avait tous les dons spirituels, ou Thessalonique, où courageusement les chrétiens ont abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce matin, je voudrais vous parler d'une autre église du Nouveau Testament. Une église qui est peut-être peu connue, mais qui mérite toute notre attention. Je voudrais ce matin que nous fassions meilleure connaissance avec l'église d'Antioche. Antioche était une grande ville d'Orient, située à 500 km au nord de Jérusalem. Elle était capitale de la province romaine de Syrie, troisième ville de l'Empire romain, carrefour du commerce, de la soie avec la Chine et le commerce des épices d'Orient. Ville renommée pour sa culture et pour ses magnifiques temples. Ville cosmopolite, presque autant que Montreuil-sous-Bois aujourd'hui, avec un quartier grec, un quartier syrien, un quartier romain et un quartier juif assez important. Il y avait peut-être 25 000 juifs à Antioche à cette époque. Et ses habitants, un petit peu comme les gens de la région parisienne, étaient connus pour leur énergie, leur insolence. On disait même leur débauche et leur instabilité. Ça, c'est nettement moins intéressant. Et à plusieurs reprises, ils se sont révoltés contre les Romains. J'aime l'église d'Antioche pour au moins cinq raisons que je vais vous présenter ce matin. Mais d'abord, nous allons lire dans le livre des Actes, au chapitre 11. Actes chapitre 11, à partir du verset 19. Je vais lire dans la version Parole de vie, qui est assez différente des autres versions, mais qui rend ce texte bien vivant. Actes chapitre 11, à partir du verset 19. Après la mort d'Étienne, on a commencé à faire souffrir les croyants, et ils sont partis de tous les côtés. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Mais ils ont annoncé la parole de Dieu seulement aux Juifs. Verset 20. Pourtant, certains parmi eux, de Chypre et de Cyrène, viennent à Antioche. Et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus à des gens qui ne sont pas juifs. La puissance du Seigneur est avec eux. C'est pourquoi beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur. Les membres de l'Église de Jérusalem apprennent cela. Alors, ils envoient Barnabas à Antioche. Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de mille manières aux croyants. Barnabas en est très heureux. Il les encourage tous à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. En effet, Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'unissent ainsi au Seigneur. Ensuite, Barnabas part pour la ville de Tarse. Il va chercher Saul. Il le trouve et l'emmène à Antioche de Syrie. Tous les deux passent une année entière dans cette église. Ils enseignent beaucoup de monde. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Un jour, des prophètes viennent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux s'appelle Agabus. Poussé par l'Esprit Saint, il annonce qu'il va bientôt y avoir une grande famine sur toute la terre. Et cette famine a lieu en effet au temps où Claude est empereur. Alors les disciples décident ceci. Chacun va donner ce qu'il peut pour qu'on l'envoie aux croyants qui habitent en Judée. Les disciples font cela. Ils envoient leurs dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Et nous allons tourner la page parce que l'histoire continue au début du chapitre 13. Le chapitre 13, versets 1 à 3. Dans l'église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. Ce sont Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaël, qui a été élevé avec Hérode d'Antipas, et enfin Saul. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. » Ils continuent à jeûner et à prier. Ensuite, ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saul et ils les laissent partir. Tout d'abord, Dieu montre son amour de mille manières dans l'église d'Antioche. J'aime beaucoup cette façon de traduire le verset 23. Parce que l'amour de Dieu est généreux. Il fait briller son soleil sur tous les hommes, bons ou mauvais. Il a mis 36 000 merveilles, 36 000 délices, 36 000 parfums dans la nature pour la joie de tous. Et surtout, il a donné son Fils pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Lorsque Dieu montre son amour de mille manières dans une église, nous nous surprenons à aimer de façon généreuse à notre tour, à aimer Dieu de tout cœur, sans compter le temps que nous passons dans sa présence ou dans son service, à aimer sans compter, à donner ce que nous donnons sans compter. Nous donnerions tout. Nous nous surprenons à aimer nos frères et nos sœurs de tout cœur, sans attendre qu'ils viennent vers nous. Nous nous surprenons à aller vers eux spontanément, sans attendre qu'ils nous rendent service. Nous nous surprenons à leur rendre service, sans attendre qu'ils nous invitent pour les inviter à notre tour, sans attendre qu'ils viennent nous demander pardon. C'est ça lorsque l'amour généreux de Dieu agit au milieu de nous. En arrivant à Antioche, Barnabas constate ce que la grâce de Dieu accomplit. Et il en est rempli de joie. Connaissons-nous la grâce de Dieu, cet amour qui se manifeste de mille manières? La grâce de Dieu est-elle une source qui jaillit constamment en nous? Moi, je suis frappé combien il est difficile de vivre de la grâce de Dieu. Quand j'étais jeune marié, mon épouse avait un don merveilleux pour m'énerver. Et si votre épouse vous énerve, vous avez envie de l'énerver à votre tour. Enfin, moi, j'étais comme ça. La grâce ne nous vient pas naturellement. Jésus, par contre, allait de lieu en faisant le bien. Jésus a prié pour ses bourreaux. Il a donné sa vie pour ses amis. Son esprit est-il en nous? Parce que l'esprit de Jésus, c'est un esprit généreux, un esprit plein de grâce. En me voyant vivre, les gens voient-ils l'impact de la grâce de Dieu sur ma vie? En venant dans cette église, les gens voient-ils l'impact de la grâce de Dieu dans votre vie? Deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup l'église d'Antioche, c'est que l'église d'Antioche a une vision large de l'évangélisation. Les premiers chrétiens qui arrivent à Antioche viennent de Jérusalem pour s'échapper de la persécution. Ils sont juifs. Ils viennent s'installer dans le quartier juif. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils témoignent à leurs voisins et à leurs collègues juifs. Et dans un premier temps, l'église d'Antioche n'est faite que de juifs. Les chrétiens ne savent pas faire autrement. Mais d'autres chrétiens, en provenance de Chypre et de Cyrène, prennent l'initiative d'annoncer l'évangile aux païens. Et ça, à l'époque, ce n'était pas un acte banal. Aujourd'hui, ça nous semble si naturel. Mais à cette époque-là, personne ne l'avait osé. Enfin, nous disons juste que dans Actes 10, Pierre va prêcher à Corneille, le centurion romain. Mais Dieu doit le contraindre et le forcer. Dieu doit répéter 3 fois la vision pour que, enfin, Pierre comprenne qu'il a le droit de mettre les pieds dans la maison d'un païen et que Dieu l'envoie à prêcher la bonne nouvelle à des païens. Plus tard, le succès de la mission de Paul et Barnabas va confirmer l'Église d'Antioche dans cette voie. Mais certains chrétiens de Judée ne sont pas du tout contents. Ils n'accueillent toujours que des Juifs. Et Antioche doit provoquer ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, dans Actes 15, pour régler la question de l'accueil des païens dans l'Église. Parce qu'à Jérusalem, on veut imposer la circoncision à tout le monde. Et à Jérusalem, ils ont l'impression de croire encore que pour être chrétien, il faut d'abord être juif. Et ce que je trouve formidable ici, c'est que ces chrétiens qui viennent de Chypre et de Cyrène ne se contentent pas de faire comme les autres. Ils n'ont pas besoin de faire comme ils ont toujours fait. Ils sont prêts à innover et à prendre des risques. Ils ne craignent pas de sortir des sentiers battus. Ils se lancent dans l'inconnu. Ils annoncent l'Évangile aux païens. C'est-à-dire qu'ils n'annoncent pas seulement l'Évangile à leur cercle d'intime, à des gens qui leur ressemblent, mais aussi à leurs collègues de travail, à leurs fournisseurs, à leurs clients, à leurs voisins, au soir, à la taverne, au bal public. Partout, ils se mettent à parler de Jésus. Et nous lisons verset 21 que la puissance du Seigneur était avec eux. C'est pourquoi beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur. Pour survivre aujourd'hui, une petite église comme celle-ci a besoin d'évangélistes, comme ces chrétiens-là de Chypre et de Cyrène. Qui sont les évangélistes que Dieu vous donne? Moi, je crois que Dieu distribue ses dons aux églises. Mais comment allez-vous discerner ces dons? Comment allez-vous soutenir ces évangélistes? Comment priez-vous pour eux? Troisième chose que j'aime dans l'église d'Antioche. L'église d'Antioche s'occupe des besoins de la personne entière et non seulement des âmes. Elle apprend par le moyen du message inspiré d'Agabus qu'il y aura une grande famine. Et l'Église se préoccupe des besoins des frères de Judée à 500 km de là. Ces frères de Judée étaient des inconnus pour la plupart. Mais l'Église d'Antioche ne reste pas sans rien faire. Elle prend une décision. Elle s'engage. Et l'Église envoie aux églises de Judée des secours matériels. Chaque chrétien donne selon ses moyens. Verset 29. Comme les chrétiens autrefois à Jérusalem avaient distribué les biens, leurs biens, chacun, à chacun selon ses besoins. Et cette libéralité de l'Église d'Antioche est une expression concrète de la solidarité dans la famille chrétienne, entre chrétiens d'origine très différente, entre chrétiens d'origine païenne et juive. J'ai l'impression que ce geste de solidarité est le reflet d'une attitude profonde dans l'église d'Antioche. Un peu plus tard, lorsque l'église envoie Paul et Barnabas à Jérusalem, elle leur donne tout ce qu'il faut pour leur voyage. Et si Luc se donne la peine de la mentionner, leur geste n'était pas banal. J'entends souvent les gens se lamenter sur le triste état de la société française. Comment réagissez-vous à ce genre de discours? Je pense que nous pouvons être fiers de la solidarité qui se pratique dans beaucoup d'églises évangéliques. Est-ce vrai ici aussi? L'une des raisons pour lesquelles la France va mal, c'est qu'elle manque d'églises pour vivre la solidarité sur le terrain. Quatrième chose que j'aime beaucoup dans l'église d'Antioche, c'est qu'il y a une équipe multiethnique de responsables. La direction et l'animation de l'église d'Antioche ne sont pas concentrées entre les mains d'un seul homme. Elles sont partagées par une équipe. Et quelle équipe? Car elle reflète la diversité ethnique et culturelle de la ville d'Antioche. Il y avait dans l'équipe Simeon, surnommé le Noir, un Africain, un Éthiopien, on ne sait pas. Il y avait Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est l'Afrique du Nord. Il y avait Manaël, un arabe, un palestinien, élevé avec Hérode. Il y avait Barnabas de l'île de Chypre, aujourd'hui intégré à l'Union européenne, et Saul de Tarse, dans la Turquie moderne. Avec une telle diversité, on se croirait dans une église de la région parisienne. Et un des sujets de gloire de l'église de Jésus-Christ est le mélange de couleurs, de cultures et de classes sociales. Et la conviction que Dieu fait de nous une famille. Savons-nous accueillir et mettre à l'aise des personnes qui viennent d'ailleurs et qui ne nous ressemblent pas? Les accueillir non seulement ici, mais aussi chez nous, autour de la table. Sommes-nous conscients des difficultés de ces personnes pour trouver leur place au milieu de nous? Car cela ne va pas de soi. Il y a des parois de verre qui nous séparent si nous venons d'origines très différentes. Et c'est terrible quand on se cogne dans une paroi de verre. Ça fait mal. Et on ne recommence plus. Savons-nous bâtir une famille multiethnique et manifester l'unité de cette famille au monde autour de nous? Une assemblée comme celle-ci ce matin, c'est peut-être unique dans cette ville de Montreuil. Oh non, il y a d'autres églises qui font comme vous. Mais il y a peut-être seulement dans les églises qu'il y a une telle diversité. Voilà un beau témoignage pour le monde. Et puis, last but not least, comme disent les anglo-saxons, l'église d'Antioche est à l'origine de la mission chrétienne. Rien de moins. L'église est à l'écoute du Saint-Esprit. Elle accepte de consacrer deux de ses meilleurs éléments à la mission, lorsque l'Esprit Saint leur dit de le faire. L'Église jeune et prie. Elle impose les mains à Barnabas et Saul et les confie à la grâce de Dieu. Et il continue à s'intéresser à eux. Nous voyons cela dans le chapitre suivant. Elle se réunit pour écouter le compte-rendu de leur voyage. Et ce qui se passe là, au début du chapitre 13, c'est vraiment un point tournant dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Alors, regardons cela de plus près. Ce jour-là, l'équipe de responsables jeûnait et adorait le Seigneur. Et le Saint-Esprit leur a parlé. Ah, c'est toujours un bon exercice pour les responsables de l'Église de jeûner et prier le Seigneur et de se mettre à son écoute. Le message du Saint-Esprit ne leur donne pas beaucoup de précision. Dieu ne dit rien du travail à accomplir. C'est un peu à la manière de l'appel que Dieu a adressé à Abraham autrefois. Se rendre dans un pays que je t'indiquerai. Ça demande à l'Église, et en particulier à Barnabas et à Saul, un travail de réflexion et de discernement, ainsi qu'un grand pas de foi. Mais ensemble, ils ne reculent pas devant le sacrifice. Le plus probable, c'est que Dieu a parlé par l'un des prophètes de l'Église, que cela soit de manière audible ou de manière silencieuse et intérieure. Et ils réagissent d'abord en continuant dans le jeûne et la prière. Parce que l'Église veut s'assurer de l'appel de Dieu et veut intercéder pour les deux intéressés. Le Saint-Esprit les envoie et l'Église impose les mains à Barnabas et à Saul. C'est beau de voir l'Église et l'Esprit ensemble prenant la responsabilité de cette mission. Malheureusement, dans nos églises évangéliques, nous avons l'habitude de partir dans 36 directions. Avons-nous l'habitude de vivre la solidarité et l'unité de cette façon? Alors, vous avez fait la bêtise aujourd'hui d'inviter un ancien professeur de théologie pratique. Et vous n'allez pas échapper au devoir pour la semaine devant vous. C'est comme ça les profs, hein, ils aiment donner des devoirs. Alors, dans l'objectif d'encourager le témoignage de chacun ici, je vous invite à aller tout de suite trouver deux personnes. Alors, non pas votre conjoint ou votre soeur ou votre frère, mais d'aller trouver deux autres personnes et de vous engager à prier ensemble cette semaine pour votre témoignage. Autrefois, avec Mission France, avec l'IGRAM en 1986, on appelait ça des trios de prière. Et l'idée, c'était que chaque membre du trio priait pour trois personnes, pour chacun. Alors, un voisin, un collègue, un ami, un parent. Alors, c'est le moment du travail pratique. Vous allez trouver deux personnes et vous vous engagez à prier chaque jour de la semaine pour les trois personnes qui mentionnent, afin que le Seigneur puisse bénir votre témoignage. Au travail. Levez-vous, hein.
Ah,
Je vois qu'il y a des gens qui ne savent pas compter jusqu'à 3. Hein? Cet équilibre remarquable qu'il y avait à Antioche entre la prière, la solidarité et le témoignage. Et la souplesse remarquable qu'il y avait dans cette église. Nous avons vu qu'il y avait là une action visible de la grâce de Dieu. Il y avait une écoute attentive du Saint-Esprit. Il y avait une sensibilité aux besoins des autres. Il y avait l'unité de l'Église autour de l'équipe pastorale. Il y avait des initiatives courageuses dans la solidarité et la mission. Et il y avait la volonté d'accepter des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Savons-nous écouter l'Esprit de Dieu ensemble? Sommes-nous prêts à nous laisser conduire en Église sur des routes nouvelles? Quel est l'appel de Dieu pour cette Église, pour les années 2017, 2018, 2019, 2020? Sur quel chemin Dieu veut-il vous conduire? Êtes-vous prêt à renoncer à vos idées personnelles pour vous engager dans les projets de Dieu? Moi, je me réjouis d'apprendre que les responsables des assemblées de Paris et de la petite couronne ont commencé à se réunir et à réfléchir sur votre avenir commun. Saurez-vous vous unir autour d'un projet commun et travailler ensemble, tous dans la même direction? Moi, je crois que Dieu a des projets pour nous tous et pour vous en particulier, et qu'il veut vous les faire connaître. Saurez-vous vous mettre à son écoute et à suivre son appel? Alors, que Dieu vous bénisse dans la prochaine étape de votre mission. Prions ensemble. Père, nous te bénissons pour ta parole et pour toutes les richesses que nous y découvrons. Nous te bénissons pour ton action dans l'Église tout au long des siècles. et pour tout ce que tu as accompli ici, dans cette église à Montreuil. Et Père, nous te demandons de nous rendre attentifs à tout ce que tu veux nous dire. Et de nous rendre souples pour suivre ta voix. Et Père, nous te bénissons parce que ton esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Et nous te bénissons parce que tu nous équipes pour te servir. Alors que ton nom soit encore glorifié ici, dans cette ville de Montreuil. Nous le demandons pour la gloire de Jésus-Christ.